Radio France Internationale, 21h, en temps universel, 23h à Paris, minuit à Beyrouth.
Mathis Limano.
À la une de votre édition, un tapis de bombes, des cris et des décombres. La banlieue sud de Beyrouth visée par des frappes israéliennes ce jeudi, c'est son chef Hassan Nasrallah qui était visé selon des médias israéliens. À la une également, enquête ouverte en Russie contre des journalistes étrangers. Leur tort, avoir réalisé des reportages dans la région de Koursk, région russe sous contrôle ukrainien. Nouveau Premier ministre au Japon, Shigeru Ishiba, 67 ans, a remporté les élections du parti au pouvoir. Et puis Maggie Smith s'en est allé, connu pour ses rôles dans Harry Potter ou Downton Abbey, cette légende du théâtre et du cinéma britannique s'est éteinte ce vendredi à l'âge de 89 ans. C'est un déluge de feu qui s'est abattu sur la banlieue sud de Beyrouth en fin de journée. 6 immeubles détruits, le QG du Hezbollah frappé, son chef Hassan Nasrallah visé selon des médias israéliens. Le mouvement chiite a annoncé qu'il était sain et sauf. 2 morts et 76 blessés sont à déplorer. Bilan très provisoire pour le moment. Les hôpitaux de la capitale libanaise font face à un afflux de victimes et appellent les habitants à donner leur sang en urgence. Réplique du Hezbollah dans la soirée qui affirme avoir lancé une salve de roquettes sur la ville de Safed en Galilée. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou a écourté son voyage aux États-Unis pour rentrer en Israël. Il s'exprimait ce jeudi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Discours très attendu, mais sans surprise. Le Premier ministre israélien a rejeté tout cessez-le-feu au Liban et à Gaza et a répété qu'il irait jusqu'au bout contre le Hezbollah et le Hamas. Benjamin Netanyahou a aussi menacé l'Iran de représailles en cas d'attaque de Téhéran.
Soutenu par l'Iran, les terroristes palestiniens en Judée-Samarie ont perpétré de nombreuses attaques, là-bas et dans tout Israël. Et en avril dernier, pour la première fois, l'Iran a directement attaqué Israël depuis son propre territoire, tirant sur nous 300 drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques. J'ai un message pour les tyrans de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. Il n'y a aucun endroit en Iran que le bras long d'Israël ne puisse atteindre. Et c'est vrai pour tout le Moyen-Orient. Loin d'être des agneaux conduits à l'abattoir, les soldats israéliens ont riposté avec un courage incroyable et des sacrifices héroïques. Et j'ai un autre message pour cette assemblée et pour le monde en dehors de cette salle. Nous sommes en train de gagner.
We are winning.
Propos recueillis par notre envoyé spécial à New York, Julien Chavan. Et l'Iran qui n'a pas tardé à répondre, qualifiant les bombardements israéliens sur Beyrouth de « dangereuses escalades qui changent les règles du jeu », ajoutant que les auteurs de ce massacre allaient recevoir le juste châtiment. Pour sa part, le chef de l'ONU prévient « un élargissement du conflit aurait des conséquences inimaginables et poussera tout le Proche-Orient dans l'abîme ». Antonio Guterres qui a de nouveau apporté son aval à la proposition de cesser le feu de 21 jours portée par la France et les États-Unis. Les États-Unis, où Hélène poursuit sa course meurtrière, avec des vents à plus de 220 km/h provoquant d'importantes inondations. Le bilan de l'ouragan grimpe à au moins 33 morts. Des millions d'Américains sont encore privés d'électricité en Caroline du Sud et du Nord, en Floride et en Géorgie. La Géorgie et sa mégalopole, Atlanta, où l'on craint de graves inondations. En Russie, l'ouverture d'une nouvelle enquête contre des journalistes étrangers. Ils sont accusés d'avoir franchi illégalement la frontière pour réaliser des reportages dans la région de Koursk. Les journalistes, 2 de nationalité américaine et 1 de nationalité roumaine, avaient suivi les troupes ukrainiennes lors de l'incursion réalisée dans cette région frontalière. Précision signée Daniel Valo.
Dans le communiqué publié ce matin, le FSB annonce l'ouverture d'enquête contre 2 journalistes américains travaillant pour la chaîne australienne ABC et contre un journaliste roumain travaillant pour le média Hot News. Tous 3 ont publié des reportages écrits et vidéos dans la région de Koursk. Ils avaient accompagné l'armée ukrainienne jusqu'à la ville de Soudja, principale localité prise par les Ukrainiens à la suite de leur incursion. La journaliste Catherine Dis, dans son article publié au début du mois sur le site d'ABC, raconte son arrivée dans la ville. Elle décrit les stigmates des combats et les signes de la présence ukrainienne et elle évoque ses échanges avec les quelques habitants restés sur place. Au début de son reportage, elle se dit consciente du fait que son passage de la frontière avec l'armée ukrainienne sera considéré comme un acte illégal par les autorités russes et qu'elle ne pourra plus de ce fait retourner en Russie. Au total, ce sont 12 journalistes étrangers qui sont accusés à ce jour par la Russie d'avoir franchi illégalement la frontière et qui risquent en théorie jusqu'à 5 années de prison, en théorie puisque ces journalistes se trouvent hors du territoire russe. Des procédures ont été ouvertes notamment contre des journalistes de CNN, de la RAI ou encore de la Deutsche Welle.
Daniel Valo est le président ukrainien reçu ce vendredi par Donald Trump. Une réunion très productive, a dit Volodymyr Zelensky. En cas de victoire à la présidentielle américaine du 5 novembre, Donald Trump s'est engagé à résoudre le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et a appelé à un accord juste pour tout le monde. La veille, le président ukrainien s'est entretenu avec Joe Biden et Kamala Harris, le président et la vice-présidente. Tous deux lui ont réaffirmé leur soutien indéfectible. Volodymyr Zelensky repart en Ukraine avec une nouvelle aide américaine militaire d'un montant de 8 milliards de dollars. Le Japon tient son nouveau Premier ministre, Shigeru Ishiba. À sa cinquième tentative, l'homme de 67 ans prend la tête du Parti libéral-démocrate et de fait de la quatrième économie mondiale, gouvernée sans interruption par la formation politique. Il aura la lourde tâche de redresser son parti affaibli par les nombreux scandales et par 3 années de mandat de Fumio Kishida. Relativement populaire dans la population, dans un contexte de défiance généralisée envers les hommes politiques au Japon, c'est un profil atypique qui arrive au pouvoir, Nicolas Roca.
Connu pour sa rivalité interne avec Shinzo Abe, ses critiques ouvertes envers les politiques menées par le gouvernement de l'ex-premier ministre lui ont coûté des soutiens importants au sein du parti. Ce qui explique partiellement les 4 échecs de Shigeru Ishiba à l'élection de la présidence de sa formation politique qui dirige le Japon presque sans discontinuer depuis 1955. Ce stratège discret et spécialiste des questions de défense dont il a hérité par 2 fois du portefeuille ministériel. Il se dit en faveur d'une forme d'OTAN asiatique face à la Chine et la Corée du Nord qu'il a visité en 1992. L'initiative provoquerait l'ire de Pékin, mais il reste très prudent sur ses déclarations concernant le voisin chinois et souhaite rééquilibrer l'alliance militaire avec les États-Unis qu'il juge trop favorable à Washington. Son arrivée au pouvoir semble appréciée à Séoul alors qu'il s'éloigne des thèses des ultra-conservateurs dont le révisionnisme historique a longtemps pollué la relation avec la Corée du Sud. En plus de devoir restaurer la confiance en son parti, Shigeru Ishiba doit aussi redresser l'économie nippone. Ce partisan de la décentralisation du pays espère redynamiser les régions rurales en investissant dans la pêche, l'agriculture et les services.
Précision signée Nicolas Roca. En bref, cette nouvelle amende contre Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, amende de 91 millions d'euros dressée par la Commission irlandaise pour la protection des données. En cause, le manque de transparence de Meta après une faille de sécurité compromettant les mots de passe des utilisateurs. Un mot de Ligue 1, c'est du foot. Le match de la soirée, c'est le Paris Saint-Germain qui recevait le Stade Rennais. Sans sourciller, les Parisiens se sont imposés 3-1, notamment grâce à un doublé de Bradley Barcola, qui devient le meilleur buteur de Ligue 1. Plus tôt dans la soirée, Brest s'est incliné à Auxerre sur le score de 3-0. Deuxième victoire dans la compétition pour les Auxerrois qui leur permet de s'éloigner du bas du classement. Et puis on termine ce journal avec une disparition, celle de Maggie Smith, légende du théâtre et du cinéma britannique. Elle s'est éteinte ce vendredi à l'âge de 89 ans. Maggie Smith était notamment connue du grand public pour ses rôles dans la saga Harry Potter et dans la série Downton Abbey. Elisabeth Le Quéré.
I'm a woman of many parts.
Au cours de sa longue carrière, Maggie Smith a raflé toutes les récompenses imaginables, y compris 2 Oscars. Mais qui aurait pu deviner qu'elle deviendrait, à 70 ans passés, une célébrité planétaire? À l'orée des années 2010, 2 rôles vont lui valoir l'adulation du public, celui du professeur McGonagall dans Harry Potter et surtout celui de l'acariâtre douairière de la série télévisée Downton Abbey.
He hates to leave America. I should hate to go there.
Apothéose d'une carrière extraordinairement riche, débutée sur les planches en 1950, au cinéma comme au théâtre, Maggie Smith a touché à tous les genres, registre comique ou tragédie. À l'affiche de près de 60 longs métrages, elle a donné la réplique à Laurence Olivier dans Othello, comme à Whoopi Goldberg dans Sister Act. Ce parcours impressionnant lui avait valu d'être nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 90 et compagnon d'honneur en 2014.
Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI. Il est presque 23h10 ici à Paris, 21h10 en temps universel. Le retour de l'information, c'est dans 50 minutes avec 24h en France, présenté par Stéphane Genest.